Fréquence verte 66 209 de la RAO, FM 95 MHz, 67 23 22.
Esteve Weils, alors encore un petit jingle qui indique que nous parlons de radio libre en pays catalan.
Il y a longtemps.
C'est de l'histoire.
Oui.
On a évoqué dans une première partie la genèse du livre, les circonstances. Alors le sous-titre que vous lui avez mis à ce livre me semble assez éloquent, vous allez me dire si c'est ça, du monopole public au monopole privé au pluriel. C'est-à-dire, c'est le parcours pour vous de cette épopée-là.
On a eu les radios libres, en gros, de 1978 à 1988 ou 87. On a 10 années, on va dire, allez, 77-87, pour faire juste. Mais avant ces radios et après ces radios, donc avant, ce n'est que la radio d'État, et après, ce n'est que la radio parisienne. Ce ne sont que les réseaux parisiens, de Chéri FM à Skyrock, en passant par Fun, mais pourquoi pas aussi RTL2, France Culture, France Inter ou Sud Radio aujourd'hui, qui ont un point commun, c'est que ce sont toutes des radios fixées dans la même ville. Elles sont pas à Marseille ou à Nantes, elles sont toutes à Paris.
Oui, bien sûr.
Ce qui est un cas unique en Europe.
Elles sont à Paris, donc elles sont en France, elles sont françaises parce qu'elles sont à Paris.
Toutes les radios nationales d'Italie ne sont pas forcément à Rome.
Absolument.
Bologne a son importance, Florence, bon, je m'arrête là pour les exemples.
Mais donc
quand on reprend le fil sur nos radios libres, si on considère qu'on a une sorte de parenthèse, que j'appelle moi parenthèse enchantée, de 77 à 87 du siècle dernier, bien avant c'est monopole d'État et après c'est monopole privé, mais ça reste du monopole. Puisque aujourd'hui, vous le savez très bien vous-même en tant que... Faut-il vous appeler des résistants, des dinosaures?
Un peu.
Vous, en tant que Grand Sud FM, qui avait démarré en 1981 en tant que Radio Narbonne, puis Radio Narbonne, puis Radio Narbonne Méditerranée.
Puis hein, voilà, tout un périple.
Il y a eu cette évolution du nom, etc. Mais vous êtes là. Vous êtes, oui, des résistants, en tout cas des gens qui avaient réussi à vous adapter à toutes les époques. Hein. Ça n'a pas été le cas de tout le monde, puisqu'on a assisté à une sorte d'hécatombe.
Ça, effectivement.
Y compris à Narbonne.
Y compris.
Ou à Perpignan. Mais à l'origine, donc, on avait cette forme de diversité, en fait, radiophonique, qu'on peut retrouver, je sais pas, en Provence, en Bretagne, en région parisienne, même à Paris même. Hein. À Paris, il y a eu 300 radios, quand même, c'est pas rien. Ou en Touraine ou autre. Et aujourd'hui, on se retrouve avec cette concentration de radios qui font ou qui fait que lorsque vous vous baladez en France et vous faites du zapping sur votre autoradio, par exemple...
Ben, vous retrouvez la même chose. Quoi.
C'est juste les emplacements des stations qui sont pas... hein, c'est pas au même endroit. Skyrock, ici, c'est sur 89, je sais pas combien. Là-bas, ça sera sur 104 trucs. RTL2, ce sera pas sur le même emplacement. Et il y a un parallèle à faire, à mon avis, entre les magasins de bricolage ou les jardineries ou les magasins animaliers.
Les franchises.
Voilà.
Les franchises.
Ou les hangars de vente de chaussures ou d'articles de sport. Je veux ne pas dire de marque, mais je pense que les personnes qui nous écoutent, si elles font un petit exercice de culture générale que nous avons tous en nous, si on se dit, tiens, qu'est-ce que je connais comme magasin de bricolage? J'en connais au moins trois. Et je suis sûr que tout le monde peut dire, ouais, genre, alors, non, ça finit par AMA. L'autre, ça finit aussi d'ailleurs par AMA. Il y en a plusieurs qui finissent par AMA. L'autre qui appartient au groupe Auchan, je vais le dire parce que c'est plus simple, mais il y en a 4 ou 5. Donc on peut en connaître au moins 3 ou 4. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous allez d'une ville à l'autre en France, vous avez aussi ces mêmes magasins.
Vous allez retomber sur les mêmes choses.
Les chaussures machin, les chaînes de restauration, etc. À part qu'ils sont pas au même endroit. C'est pas forcément à l'entrée nord ou à l'entrée sud de la ville ou à l'entrée est ou ouest. Et pour la FM, c'est pareil. Alors, c'est normal qu'il y ait un pays, qu'il y ait une nation, qu'il y ait une capitale, qu'il y ait Paris, évidemment, que c'est normal.
Oui,
il faut pas un truc. Mais qu'il y ait autant de, que ce soit aussi identique d'une ville à l'autre.
Oui, uniforme.
Ça
quoi,
me paraît
aussi, uniforme.
Ça me paraît pas être très très bon. Et souvent, alors qu'on s'intéresse beaucoup, vous savez, à la disparition des papillons ou des lézards, etc.
Voilà, la biodiversité.
Voilà. Et bien entendu qu'il faut porter un égard important à la disparition des plantes et des poissons. Vous savez ce que c'est, les poissons dans les rivières? On s'aperçoit que dans les rivières, lorsqu'on met un gros poisson halogène, ça fait disparaître les petites espèces autochtones.
Ils bouffent les autres, quoi.
Pour un gros poisson qui est peut-être efficace pour les pêcheurs parce qu'on peut, peut-être il a de la chair ou qui sait quoi, on en fait disparaître, mettons, 5 ou 6. Mais pour les radios, malheureusement, c'est un petit peu pareil. Ouais, et pour les... Est-ce qu'il reste une droguerie ou une quincaillerie à Lézignan ou à Narbonne, par exemple? Est-ce qu'il en reste une seule? Ne serait-ce qu'une seule?
Oui. Vous voyez? Difficile à répondre.
Alors que vous avez forcément, en périphérie de toutes les villes de France, que ce soit Carcassonne, Perpignan, Narbonne, Nantes, Mérignac, que sais-je, il y aura un hangar de vente, quincaillerie maxi, hein, qui s'appellera quelque... Enfin, voilà, on connaît les marques.
On est toujours
on pourra acheter un tournevis.
On est toujours dans ce même schéma. Ouais.
On pourra acheter du White Spirit ou de l'essence de térébenthine. Et le fait est qu'on vous dit, ouais, mais c'est partout pareil. Ce n'est pas partout pareil. Pour toute personne qui voyage un petit peu en Europe, en Italie, Allemagne, Espagne...
Ah oui, dans les pays voisins, alors, ça ne se passe pas. Bon, enfin,
le passé, c'est le passé. Le mais passé... n'empêche qu'il ne faut pas oublier le passé.
Oui, oui, absolument. Voilà, et tout. Puis il y a l'avenir et on y reviendra.
Et l'avenir, c'est bien, hein, pas de problème.
Voilà. Mais alors, une remarque ou une question peut-être sur l'appellation.
Oui.
Radio libre ou radio locale?
Oui.
Parce que, en deux mots, moi, personnellement, j'ai jamais eu l'impression de faire de la radio libre.
Oui.
J'ai toujours cherché à faire, et je continue à faire de la radio locale.
Oui.
Parce que libre, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai jamais eu l'impression que parce qu'on est local, on va être plus libre qu'une radio d'État ou une radio nationale.
C'est une formule.
C'est une formule.
Plus ou moins journalistique. Parce que, il y a eu la radio pirate auparavant.
Oui.
Qu'avait-elle de pirate?
Les pirates, c'est les gens... c'était très romantique.
Les pirates, ils attaquent des navires. C'est un navire qui en attaque un autre.
C'est des corsaires, oui.
Les corsaires sont à la solde du pouvoir.
Oui.
C'est pas pareil.
Les corsaires.
Ils
oui.
sont rémunérés par un gouvernement ou autre. Mais
oui,
les pirates, mais... eux, ils sont freelance, quoi.
Voilà. Mais le comportement est le même.
Ah, j'en conviens. Et les dangers sont les mêmes, etc. Mais au demeurant, les radios pirates, elles attaquaient pas les autres radios. Donc c'était pas des pirates, en fait. C'était totalement galvaudé. Mais ça allait bien pour la presse,
oui,
et tout
voilà.
ça. C'était romantique, comme vous
oui,
dites.
Oui, voilà.
Les radios libres, ma foi, étaient-elles libres si elles commençaient, comme Radio Monte Carlo à l'époque, à diffuser elles aussi des hits. Des hits commerciaux, etc. Vous voyez le principe, une radio qui voulait imiter les grosses radios,
oui, c'est ça.
Était-elle vraiment libre?
Oui, parce que beaucoup de ces radios... Alors la question qu'on peut se poser aussi avec le recul, c'est quelle était leur stratégie? Voulaient-elles vraiment faire du local, donc de l'information locale, ou simplement être des robinets à musique qui allaient reprendre les mêmes musiques que ce qu'on entendait au niveau national?
C'était un petit peu les deux. Il y a forcément plusieurs typologies dans les radios qu'on a appelées radios libres. Il y avait les radios de parole, avec l'intervention de telle ou telle personne qui aurait pu faire des conférences, par exemple, des sujets archéologie, histoire.
Et ça, c'était du local, forcément, puisqu'ils étaient sur place.
Oui, des émissions aussi musicales, mais dans le sens, je raconte la vie du chanteur, je raconte qu'il a fait un concert à tel endroit. C'était quand on voulait accompagner la musique de commentaires sur les artistes. Et après, il y a eu, oui, très rapidement, ben voilà, le hit, c'est Michael Jackson, après c'est Madonna, et puis c'est voilà. Prince, et puis c'est A.A. ou... Dépêche Mode ou que sais-je, quel groupe de l'époque, c'était une imitation en fait de
voilà,
des radios commerciales classiques.
Très vite, c'est ça.
Surtout Radio Monte Carlo, dans le ton un peu d'animateur, parfois animateur de foire, hein, d'ailleurs. Le principe de tout le temps vouloir héler les gens, de les appeler, qu'ils nous écoutent.
Ah, oui. Alors c'était l'animateur de foire, alors.
Oui, je pense. Après, on parlait des radios libres, c'est vrai qu'il n'y a pas une seule sorte de radio libre, il y a
oui,
plusieurs
doute.
Sortes de
sans doute, mais
de radio libre.
On pouvait se poser la question, est-ce que l'étiquette libre est vraiment appropriée, peu importe.
Ça vient aussi de l'anglais, tout ça, parce que c'est la free radio.
Ah, oui, voilà, effectivement.
C'est aussi l'origine, bon, parce que free, vous savez ce que c'est.
Oui, voilà.
Même aujourd'hui, le mot free, certes, ça veut dire libre, ça veut dire aussi gratuit. Gratuit, libre, donc ça coûte rien, bon.
Bon, enfin...
Mais c'est plutôt une expression qui allait bien, c'est pas une expression très appropriée. En,
voilà,
tout cas,
en tout cas, ça reste l'expression du titre de votre livre. Alors, Esteve Weiss, vous avez écrit le livre, il est paru, il est en vente, bien entendu, et vous parcourez, si je puis dire, le Roussillon en faisant un certain nombre de conférences.
Oui.
Vous allez présenter votre livre.
Oui.
Alors, vous rencontrez du public.
Oui.
Ce qui nous intéresserait, ce qui intéresserait les auditeurs, c'est quelle réaction rencontrez-vous sur cet événement où vous racontez 40 ans plus tard? C'est pas 20 ans après, c'est 40 ans après.
La plupart du temps, ce que je rencontre dans les personnes qui posent des questions, qui m'interpellent à la fin des conférences que je peux donner à Toreil, à Saint-Hippolyte, je vais aller à Bagnouls, à Prades prochainement, j'en ai fait deux à Perpignan par exemple. Je suis passé à Toulouse. À Toulouse, c'est dans le secteur proche de Perpignan. Argelès va venir, etc. Quand on m'interpelle comme ça à la fin des conférences, souvent c'est pour me dire ah oui c'est vrai que j'avais remarqué qu'à telle époque il y avait tel phénomène. Souvent les personnes qui viennent sont surprises un peu d'entendre quelqu'un, moi en l'occurrence, hein, qui a pris un sujet comme celui de la radio libre et qui l'a érigé en thème d'étude scientifique, intellectuel, sérieux. C'est-à-dire que j'ai accordé une considération à un sujet qui était totalement marginal.
Oui, sous-entendu, sérieux, ça ne l'était pas tellement dans leur esprit.
Pas. Ou... Oui, qui n'existait pas, en fait. C'est comme si je vous disais, peut-être si on racontait, je ne sais pas, l'histoire de la pétanque, peut-être. Parce que l'histoire du rugby ou l'histoire du foot, c'est déjà plus noble. Mais l'histoire de la pétanque, ça fait déjà plus dérisoire, plus négligeable, etc. Et les personnes qui ont vécu la radio libre, dans la mesure où ce qu'elles ont vécu était un peu abstrait, le journal n'en a pas parlé à l'époque. Très peu.
Ou peu, oui.
Ça pouvait arriver que le journal L'Indépendant, par exemple, dise « Tiens, telle radio a fait ceci, cela », mais c'était plutôt rare, ou pour ne pas dire... Non, les journaux en parlaient quand c'était illégal ou quand il y avait des affaires, oui, quand il y avait des choses qui étaient négatives, en fait. Mais sinon, elle n'était pas tout à fait ancrée dans une réalité de type institutionnel.
Que la plupart n'ont pas trop eu le temps de...
De toute façon. Et les personnes qui ont connu ça, au fond, elles ont connu cette période-là, cette aventure-là, cette vraie aventure, elles l'ont vécue, bien évidemment, dans leur chair, dans leur cœur, dans leur passion, dans leurs émotions. Mais le fait qu'elles retrouvent cette réalité racontée par quelqu'un qui donne du contexte, en disant, il y a eu la loi 81 novembre, il y a eu la loi ensuite 82, puis la pub autorisée sur les radios libres en 84, puis les satellites en 86, le fait qu'elle retrouve comme ça tout un discours que je déploie face à elle en disant que dès 79, sous le gouvernement gouvernement Raymond Barre,
oui.
Avec le président Giscard d'Estaing, il y a déjà une pré-annonce comme quoi les radios libres pourraient exister un jour, pof, et puis c'est Giscard qui perd l'élection en 81, c'est Mitterrand qui la gagne, et du coup Mitterrand
et le fait accompli
reprend
fait que,
l'idée, en fait, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas les radios libres ne sont pas de gauche, par exemple, elles existaient avant, elles existent après, etc., elles existent, elles sont transcourantes. Elles sont à la fois sous Giscard et à la fois sous Mitterrand. Mais souvent, on ignore ce genre de choses. Et donc, des personnes qui ont fait de la radio libre à l'époque se disent « Ah mais tiens, il y avait un contexte à l'époque, un contexte législatif. Il y avait des débats au Sénat et à l'Assemblée. » Et souvent, on ne le sait pas, elles ne le savaient pas. Parce qu'à l'époque, la télé n'en parlait pas. Ou elle en parlait très très peu. Et donc, le fait comme ça de donner une valeur officielle à quelque chose que les gens ont vécu de manière presque officieuse ou presque comme une pagaille organisée ou comme quelque chose de très improvisé, ça les surprend beaucoup. Voilà, ça surprend les personnes d'entendre que on peut raconter de manière, on va dire, un peu universitaire, sans être ni pédant, ni prétentieux, ni quoi que ce soit, mais avec un peu de rigueur, des dates, hein, des citations, etc. Quelque chose qui soit un petit peu journalistique, mais pour une réalité qui a été pour elles assez banale. Parce qu'ils avaient 18 ans, 19 ans, ils allaient faire de la radio le samedi après-midi, avant de partir en boîte, c'était des choses... banal pour ces personnes-là.
Oui, et ça, mais c'était pas pour eux une page d'histoire.
Absolument
chose
pas.
Chose que vous auriez faite en publiant ce livre.
Oui, puisque 1981, c'est l'avènement de François Mitterrand. 82, c'est la fête de la musique. 83, c'est le tournant de la rigueur. En gros, c'est la fête est finie.
Oui.
J'exagère un peu, hein, parce que le temps passant, souvent on exagère les. Enfin, on est un peu lapidaire, comme on dit. Des fois, on met une phrase pour résumer une année. C'est bien plus compliqué que ça. Mais le fait est que, oui, ma vision historique à moi, je dis à moi parce que j'assume ma part de ma lorgnette, comme on dit, hein, quand on voit les choses par sa lorgnette, j'ai une vision historique où j'essaie de replacer les radios libres comme déjà 13 ans après mai 68, c'est déjà quand même important, et c'est avant les années un peu le chômage qui grimpe, la crise qui arrive, etc. C'est une bulle, hein, c'est une parenthèse.
Voilà. On marque, Steve Weiss, une seconde pause, et on reviendra un petit peu sur la vision de l'avenir, puisque vous l'avez un petit peu évoqué en filigrane, dans une troisième partie.